France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Le 11 décembre marque les 90 ans du prix Nobel de chimie décerné à Frédéric et Irène Joliot-Curie pour leur découverte de la radioactivité artificielle. Pourquoi s'agit-il d'un tournant décisif dans l'histoire des sciences ? L'héritage scientifique de Marie et Pierre Curie tend à éclipser celui de leur descendante, leur fille Irène et son mari Frédéric. Si les Curie ont élucidé les mécanismes de la radioactivité naturelle en 1898, les Joliot-Curie, eux, ont créé les premiers radioéléments artificiels en 1934. Bien plus qu'un simple prolongement des travaux de ces pionniers de la radioactivité, leur découverte a ouvert la voie de multiples applications de la destruction de masse, avec l'arme atomique aux nouvelles sources d'énergie en passant par la médecine moderne. Les Joliot-Curie, une nouvelle histoire. Nathalie Pijard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne directrice adjointe du musée Curie. Camilla Mayani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne responsable de la médiation au musée Curie. Merci à vous deux d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez également suivre cette émission en nous rejoignant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous des liens, des infographies. Bref, tout un tas de choses pour venir nourrir votre écoute. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors pourquoi la découverte de ces radionucléides artificiels a-t-elle été un bouleversement ? Comment le couple de scientifiques est-il parvenu à ces résultats ? Et quelles ont été les promesses de la radioactivité artificielle ? Nous sommes ensemble une heure pour élucider ces questions. Mais d'abord, on donne la parole à Frédéric Joliot, puis à Irène Curie. C'est notre archive du jour, nous sommes en 1939.
Je voudrais dire peut-être quelques mots sur ce que nous voulons faire, voulons présenter au pavillon français de l'exposition de New York. Nous avons été chargés il y a quelques mois de présenter la contribution française à la recherche scientifique internationale. Insistant bien sur le fait qu'il s'agit de présenter les principales contributions à une science qui est réellement internationale, dans laquelle la France a une part importante. Et nous sommes attachés particulièrement à développer les domaines de la science qui ont eu soit leur origine en France, soit un grand développement en France.
Et c'est Mme Irène Curie qui fera notre conclusion dans sa déclaration.
Je ne puis que dire que je m'associe aux paroles qui ont été prononcées ici, et en ceci surtout, notre poids dans l'utilité sociale de la science, et notre foi dans la beauté de la science et dans la joie qu'il y a à faire du travail scientifique.
Voilà un extrait des actualités françaises diffusées sur la RDF en 1939. Nathalie Pijard, on entend là un discours et un regard très progressiste finalement sur les sciences.
Oui, très progressiste et aussi très, très tenu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler du couple Joliot. On est en 39, il n'y a pas encore eu les dérives de l'énergie atomique. Et on voit bien ici qu'ils sont encore dans cette mouvance de scientifiques qui pensent que la science va sauver l'humanité. Elle le dit, on a la foi. C'est vraiment une croyance qui est issu un peu de ce mouvement scientiste né à la fin du 19e siècle et qui va s'affirmer, qui est la science va enrayer toute la famine, va guérir tout le monde. Et ce n'est qu'après, effectivement, si vous aviez des archives de Joliot juste après la bombe Hiroshima, on voit que cette foi va être ébranlée, mais ils veulent encore y croire.
Là, en effet, Camilla Mayani, on entend un regard optimiste sur les sciences. On est en 1939, on est quand même assez peu de temps finalement, cette remise de prix Nobel.
Alors oui, ça fait quelques années. Donc le Nobel, il est en 35 pour une découverte que les Joliot-Curie ont fait en 34. Et surtout, 39, c'est une année où toute la communauté scientifique, en fait, bouillonne. Depuis le début des années 30, on a tout un enchaînement de découvertes qui vont en fait amener au nucléaire. La découverte du neutron, la découverte de la radioactivité par Chadwick, la découverte de la radioactivité toute vie artificielle par les Joliot, la fission par Otto Annelies Meitner, et on oublie plein d'autres choses qui vont amener finalement aussi aux bombes nucléaires, hein, comme disait Nathalie. Mais là, on n'y est pas encore.
Non, on n'y est pas encore, donc ils peuvent encore avoir la foi, ils peuvent encore y croire. Mais ils y croiront aussi après, il faut y croire de toute façon.
En tout cas, pour voir comment sont-ils arrivés à la beauté de leur expérience qui est parvenue à cette découverte majeure, faut se repencher un peu sur ces deux personnages. On a donc Irène Curie qui est née en 1897, Frédéric Joliot en 1900. Elle obtient sa licence en sciences physiques en 1920 et elle commence ses recherches au laboratoire de sa mère, le laboratoire Curie. Lui, il obtient son diplôme d'ingénieur en physique en 1923. Alors, Nathalie Pigeat, comment ce couple de scientifiques se rencontre-t-il ?
Marie Curie avait l'habitude de recruter au sein de l'école municipale de physique chimie industrielle, d'où Frédéric Joliot sort premier de promo, sur les conseils de son mentor, qui est Langevin. Donc il se présente à Marie Curie pour occuper un poste de préparateur. Marie Curie n'a pas le temps de le former, elle est avec ses autres équipes, et donc elle va charger sa propre fille Irène de former ce jeune, qui n'a même pas, je crois, la deuxième partie du baccalauréat, Camilla, c'est ça ? Et qui va devoir, après, passer sa licence, sa thèse, etc. Donc, il a son diplôme de l'ESPCI, et c'est tout. Et c'est Irène qui va vraiment le former à la radioactivité artificielle. Pas encore.
Voilà. Mais 1924, en effet, Frédéric devient le préparateur particulier de Marie Curie. À ce moment-là, on est quand même... on est devant une science nouvelle, hein, le développement de la radioactivité. On peut revenir ensemble, Camilla Maiani, sur les grands jalons de cette découverte, quand même, pour poser un peu le décor. Et pour comprendre ce phénomène, il faut déjà plonger dans la matière au cœur des atomes.
Alors, on peut remettre un peu, un début en tout cas, en 1898, comme vous disiez tout à l'heure, donc avec la découverte par Marie et Pierre Curie du polonium et du radium, qui sont deux éléments qui existent en nature, qui sont très radioactifs et qui vont, augmenter, améliorer la compréhension du phénomène qui avait été découvert par Henri Becquerel quelques années plus tôt. Et à partir de là, il va se développer des laboratoires de radioactivité où on étudie les propriétés physiques, chimiques de ces éléments radioactifs. On va aussi essayer d'en découvrir des nouveaux, on va en découvrir de nouveaux comme l'actinium, le proactinium, etc. Et on va essayer de les purifier chimiquement. Et puis, on va leur trouver aussi tout un tas d'applications médicales ou pas. Et il va y avoir, en parallèle des laboratoires, le développement d'une industrie de la radioactivité. Et dans les années 20, en fait, on est là-dedans, complètement.
On est là-dedans complètement. Alors les phénomènes qui justement sont élucidés par Pierre et Marie Curie, on se rend compte en fait voilà qu'on a des types de noyaux, un nucléide qui est stable lorsqu'il comporte un nombre harmonieux de protons et de neutrons.
Oui, en fait, alors c'était à leur époque, on n'a pas encore cette compréhension-là, mais en tout cas, ces atomes radioactifs sont des atomes qui, eux, ne sont pas stables. Donc, c'est des questions d'équilibre interne du noyau atomique, effectivement, le nombre de neutrons versus le nombre de protons, ou la taille de l'atome. Hein. Souvent, les atomes très lourds, comme l'uranium, sont instables. Instable, ça veut dire qu'à un moment de leur vie d'atome, ils vont se transformer en quelque chose d'autre. Et quand ils le font, ils vont émettre de l'énergie, des rayonnements, et ces rayonnements invisibles s'appellent radioactivité.
C'est ça, voilà, des noyaux instables ou radionucléides, ils sont dits radioactifs quand ils émettent différents types de rayonnements en se transformant.
Quel type ? Les rayons alpha, donc c'est vraiment un bout de noyau atomique qui va partir, de protons et de neutrons. Les rayons bêta, moins à cette époque-là, donc qui sont des électrons en fait, hein, mais qui sont générés dans le noyau atomique. Et puis les rayons gamma, qui sont de la lumière en fait, très énergétique, qui est une perte d'énergie pure du noyau atomique. Et ces types de rayonnements, tout au cours du début du XXe siècle, les scientifiques dans le monde, il ne faut pas croire que tout a été fait par les Curie, mais Ernest Rutherford, il y a Paul Villard en France, vont identifier ces rayonnements et comprendre cette instabilité atomique, hein, qui n'est pas du tout comprise en 1898.
Mais alors justement, dans ce contexte des années 20, Nathalie Pigeat, quelles sont les conséquences de cette découverte de la radioactivité naturelle.
Les conséquences en termes de compréhension de la matière. Ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, en France, le chimiste ne croit pas en l'atome puisque c'est une hypothèse, on l'a jamais vu. Et donc la radioactivité va, qui à partir du moment où elle va être définie comme des mouvements internes à l'atome va prouver quelque part, une fois de plus, parce qu'il y a d'autres expériences hein, qui prouvent l'existence de l'atome, mais ça va être une preuve de plus de l'existence de l'atome. Mais ça va surtout être une preuve de la possibilité du scientifique de rechercher dans l'infiniment petit, invisible. Alors que, justement, on s'interdisait quelque part cet invisible dans les recherches parce que on ne voulait pas faire trop d'hypothèses alchimiques, on va dire. Et surtout quand on reprend le terme de transmutation, puisque le changement, la dégradation d'un atome instable en atome stable, ça fait une transmutation. Et ça, c'est un terme très connoté.
Connoté du côté des alchimistes, donc.
Voilà, du côté de la magie, du surnaturel. La radioactivité va aussi devenir un outil pour sonder la matière. C'est-à-dire, une fois qu'on sait que l'atome existe, en tout cas, on comprend la matière de cette façon-là, c'est par la radioactivité, notamment du radium, qui a été découvert par Marie-Pierre Curie, par ses rayons alpha, qu'on va pouvoir aller titiller ces atomes. Et c'est comme ça qu'Ernest Rutherford va théoriser en fait la structure atomique qu'on connaît aujourd'hui. C'est un bombardement de la matière avec la radioactivité. Ce sont les premières sources en fait de particules. Comme aujourd'hui on a des accélérateurs, à l'époque on avait des sources de radioactives naturelles.
C'est ça. Ça permet la radioactivité naturelle. Ce phénomène permet donc de découverte à la chaîne Rutherford en effet en 1913 qui caractérise le proton, le neutron caractérisé donc par Chadwick en 1932. On voit bien en effet qu'on a une réaction en chaîne, sans mauvais jeu de découverte à cette orée des années 20-30.
Oui, c'est vraiment une période incroyable, parce que en fait, la découverte du polonium et du radium surtout, et des rayons uraniques par Becquerel, et encore avant celle des rayons X, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont ouvrir des portes dans tout un tas de domaines scientifiques qui n'existaient pas vraiment. La physique atomique, puis nucléaire, puis des particules. D'un autre côté, la radiochimie, qui va être vraiment le bébé des Curie, cette idée d'utiliser la mesure physique pour détecter les rayonnements, pour s'aider, pour retrouver des éléments chimiques qui sont durs à purifier chimiquement. Donc en fait, il va y avoir tout un tas de nouveaux domaines qui sont créés, et dans ces débuts-là, il y a un très grand enthousiasme, un très grand intérêt, mais aussi c'est quelque part plus facile en fait de faire des pas en avant. Il y a beaucoup beaucoup d'informations qu'il faut analyser, rechercher, etc.
Quels sont les pas supplémentaires en avant que vont mettre et poser les uns après les autres Joliot, les Joliot-Curie, comment vont-ils faire leur découverte en 1934? Restez avec nous, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous sommes avec Nathalie Pijard et Camilla Maiani et nous parlons du couple Joliot-Curie, pionnier de la radioactivité artificielle. On vient de parler de la découverte de la radioactivité naturelle, des conséquences immenses que ça a eu pour la connaissance de la structure de la matière, l'étude des corps eux-mêmes. En 1924, Frédéric Joliot intègre donc l'Institut du Radium en tant que préparateur particulier de Marie Curie. Un travail que Irène assure déjà depuis 1918. Et bien, dès 1928, ils élaborent ensemble leurs premières expériences originales. À ce moment-là, ils se penchent surtout sur l'exploration de la structure des noyaux atomiques, Camilla Maiani.
Oui, alors il y a tout un tas de travaux qu'ils vont poursuivre l'un et l'autre séparément ou ensemble, beaucoup séparément. Ils vont pas travailler toute leur carrière ensemble. Irène, elle va beaucoup travailler, et notamment par sa période de thèse, sur le polonium, qui est un élément qui a été découvert par Marie et Pierre Curie, donc 1898 aussi, mais qui est plus compliqué à purifier que le radium, aussi qui se transforme beaucoup plus vite. Donc au départ, quand les Curie n'ont pas une bonne connaissance l'existence du phénomène radioactif du point de vue théorique, ben, ils savent pas trop pourquoi ça se comporte comme ça. Donc, Irène est une des scientifiques, hein, il y en a d'autres dans le laboratoire qui vont beaucoup se concentrer sur la purification du polonium et sur l'analyse des rayons alpha du polonium, ce qui va être très important pour la découverte de la radioactivité artificielle un peu après. Et Frédéric Joliot, bah, lui aussi, en fait, hein, il va, comme tous les personnels du laboratoire, travailler sur ces éléments chimiques radioactifs qu'on purifie, qu'on travaille au laboratoire. Alors, peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est que autour de 32, ils vont travailler ensemble sur un sujet. En fait, ils vont manquer de peu la découverte du neutron. Ça va être le premier... Alors, ils vont faire beaucoup de publications. C'est une période où ils produisent énormément dans plein de domaines. Donc, nous, on retient que les découvertes ou les pseudo-découvertes. Mais là, ils vont se faire remarquer parce qu'ils publient un article qui va vraiment mettre Chadwick sur la piste du neutron. Alors, eux, ils ne seront pas capables d'interpréter le résultat correctement. Et c'est pour ça qu'ils ratent la découverte. Mais on voit qu'il y a une certaine attente, hein. Nathalie, elle va peut-être rebondir là-dessus, mais il y a une certaine attente dans la communauté scientifique. Voilà, ils sont un peu sous les réflecteurs de la communauté déjà à cette époque-là.
Ben, depuis la thèse d'Irène, en fait, en 25, la presse s'est un petit peu emparée de ce couple parce que justement, Irène est la fille de Marie Curie. Et c'est très drôle de voir qu'on n'arrive pas à savoir comment les nommer. On appelle Irène Curie et le gendre. Irène et Frédéric, monsieur et madame Curie-Joliot, monsieur et madame Joliot-Curie, on a un peu tout, mais c'est le terme Curie qui est le rattachement effectivement à Pierre et Marie Curie qui apparaît vraiment dans la presse.
Marie Curie est une immense star France à l'international.
Surtout dans ces années-là, quoi. Et c'est d'ailleurs, on peut dire, parce que justement c'est une star et qu'elle a un des laboratoires les mieux dotés qu'il soit dans le monde, surtout en matière radioactive, que les Joliot-Curie ont les moyens de faire cette expérience. Et c'est ce que dira Joliot, c'est oui, on avait les moyens de faire ces recherches.
Donc le couple rate de peu la caractérisation du neutron. On attend, comme vous dites, la communauté scientifique attend, regarde de près leurs résultats. Et là, les Joliot-Curie décident de recentrer leur activité sur les radioéléments et leur dégradation. Et là, en juin 33, ils étudient le rayonnement du polonium.
Oui. Alors, en fait, au départ, ils veulent partir sur une question qu'ils ont. Ils se disent que le polonium, qui est principalement un élément radioactif qui émet des rayons alpha. Donc, on disait, c'est un type de radioactivité. Eux, ils pensent qu'en fait, ça peut-être aussi émettre des rayons bêta, donc un autre type de radioactivité. Et cette première expérience qu'ils vont faire, ils sont pas du tout lancés sur la radioactivité artificielle. Hein. Personne se pose cette question-là à cette époque. Ce qu'ils vont faire, c'est juste qu'ils vont prendre ces sources de polonium très pures, très intenses, qu'on a à disposition au laboratoire Curie, et ils vont les envelopper dans une feuille d'aluminium. L'aluminium absorbe les rayons alpha. Donc l'idée, c'est de se dégager des alpha pour voir ce qu'il y a d'autre comme émission du polonium. Et ben en fait, ils se rendent compte que finalement, ça va les amener ailleurs, puisqu'ils se rendent compte que certes, ils n'ont plus d'alpha, mais en fait, ils voient apparaître des électrons positifs, des positons émis par l'aluminium. Alors, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Hein. En radioactivité, on peut produire des électrons, en radioactivité naturelle, on ne produit pas des positons. On a déjà identifié les positons par les rayons cosmiques, donc par un autre type de rayonnement, mais voilà, eux, ils ont une source d'électrons positifs, c'est une première, une des sources les plus puissantes. Et donc, ça, c'est le premier pas vers la découverte. Pour l'instant, ils ne savent pas de quoi il s'agit, en fait. Hein. C'est juste un phénomène inattendu.
Voilà, cette stupeur, cet aluminium qui lui met à émettre des positons. Donc, novembre 1933, Irène Curie et Frédéric Joliot sont au fameux congrès de Solvay, hein, qui réunit la crème de la physique internationale. La famille Curie au complet. Il retrouve Lise Meitner, Niels Bohr, Enrico Fermi, Wolfgang Pauli. Enfin, vraiment, la crème de la crème. Le jeune couple présente leurs résultats qu'ils ont obtenus en juin, mais ils font chou blanc, Camille Amayani.
Oui, parce que eux, du coup, ils présentent, ils disent, nous, ce qu'on pense, c'est que les rayons alpha du polonium, quand ils traversent l'aluminium, ils le font transmuter. Alors, c'est le mot transmuter qui désormais est devenu courant dans la communauté scientifique de l'époque, puisque on sait que la radioactivité peut provoquer une transformation dans un matériau et le transformer dans un autre matériau. Sauf qu'on n'imagine pas du tout que cet autre matériau puisse être radioactif. Et eux, ils pensent que l'aluminium a transmuté dans un élément stable. Et en se transmutant, il aurait émis des positons, donc des électrons positifs, et des neutrons. Et en fait, surtout Lise Meitner a l'air de vraiment pas y croire du tout. Il y a tout un débat. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de congrès. Voilà, on n'est pas d'accord, on va discuter. Elle considère qu'elle a déjà fait des expériences de ce type-là et qu'elle ne voit pas les mêmes effets qu'ils voient, eux. Et en tout cas, leur explication n'est pas convaincante pour tout le monde. Et d'ailleurs, Joliot racontera plus tard qu'en fait, ils étaient partis de cette séance du Conseil, assez dépités, tous les deux, mais que des pontes de l'époque, alors je ne sais plus si c'était Bohr ou Pauli, étaient allés quand même les consoler, hein, leur disant... On verra bien. En tout cas, c'est intéressant ce que vous faites. Mais bon, personne n'y croit. Et ça va leur laisser quelques mois de tranquillité.
C'est sur Nathalie Pijard, justement, sur cette réaction au sein du congrès de Sauvay entre Lise Meitner, qui est très critique, et en effet, c'est Niels Bohr qui, je crois, les réconforte et les encourage à poursuivre leur recherche. Quel impact ça a eu sur la suite de leur démarche en recherche?
En fait, quand on vous dit que vous interprétez de votre recherche est faux, il se peut, il y a très grande chance que on retourne pour justement faire de nouveau la recherche, mais les autres laboratoires aussi, on le voit dans d'autres découvertes. Et là, les Joliot, effectivement, comme dit Camilla, ils repartent, ils se disent, mais c'est pas possible, on a vu qu'un positon, mais d'après Meitner, on aurait dû voir c'est quoi un neutron. Donc on va voir si jamais il n'est pas passé à côté, voilà. Donc ils vont refaire leurs expériences avec aussi le soutien de Rutherford.
En fait, on ne remet pas en cause. Il ne faut pas se dire que parce que les autres scientifiques ne sont pas d'accord avec eux ou ne sont pas convaincus par leurs résultats, ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause leur sérieux ou leur qualité scientifique. En fait, ça fait partie du travail scientifique. Et donc, ça va les motiver pour reprendre cette expérience, essayer d'aller plus loin.
Où sont passés les neutrons, comme le critiquait Lise Meitner? Pour le comprendre, ça, ils vont donc changer leur protocole.
Oui. Alors, ils vont mettre en place un protocole extrêmement complexe par rapport à la découverte qu'ils vont faire à la fin, parce qu'ils ont besoin de voir est-ce que lorsque ces rayons alpha issus du polonium traversent l'aluminium, on sait que pour faire transmuter l'aluminium, on sait déjà à l'époque qu'il doit y avoir une énergie minimale nécessaire de ces rayons alpha. Et donc ils vont faire tout un support expérimental où ils peuvent moduler, ils peuvent varier l'énergie de ces rayons alpha du polonium, sélectionner les plus énergiques ou les stopper complètement. Et de cette façon, ils contrôlent l'énergie des rayons alpha qui touchent l'aluminium. Et ils veulent montrer que c'est bien au moment où ce seuil d'énergie est dépassé, à ce moment-là, ils doivent mesurer un positon et un neutron en même temps. Donc ils vont avoir tout un système de détection assez complexe. Et en fait, ils voient tout de suite dans leurs mesures qu'ils mesurent bien des positons et des neutrons au-dessus d'un seuil d'énergie. Donc ça va plutôt dans leur sens. Et là, à nouveau, le hasard va clarifier ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de faire leurs mesures, l'histoire consacrée veut que Irène Curie soit partie préparer un dîner et puis Frédéric Joliot soit resté au laboratoire. Et il est dans la routine des mesures. Ça aurait pu être elle. Et donc, il va comme ça baisser l'énergie des rayons alpha. Pour reprendre cette opération-là une deuxième fois. Et en fait, ce qu'il va remarquer, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus du tout de rayon alpha qui impacte l'aluminium, il continue de mesurer des positons à la sortie. Ce qui veut dire qu'en fait, cette réaction de transmutation, quelque part, elle ne s'est pas arrêtée du moment où il a enlevé la source de polonium. Et là, il faut se mettre justement dans le contexte du laboratoire Curie. Pour Joliot, très vite, ça va être clair qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il a déjà vu ça. Il a déjà vu ça pour les éléments radioactifs naturels. En fait, on voit un signal qui se réduit dans le temps. Et lui, c'est ce qu'il mesure, en fait. Un signal qui reste présent pendant un temps, et puis en quelques minutes, il va disparaître.
Voilà, en fait, ils mettent la main précisément sur le phosphore 30.
Oui, en fait, assez vite, hein, on dit que dans la demi-heure ou dans l'heure, ils vont arriver à pondre une première interprétation. Donc, ils avaient bien raison, l'aluminium a transmuté, sauf qu'il le fait en plusieurs étapes. Il va d'abord devenir du phosphore radioactif, et puis ce phosphore radioactif, lui, il va se retransformer rapidement, en quelques minutes, en silicium. Et quand il se transforme en silicium, c'est là qu'il va émettre ce positon qu'ils ont détecté. C'est pour ça que, de fait, l'aluminium en fait, continue d'émettre, même quand on enlève la source de rayons alpha. Et ça, c'est un inattendu pour toute la communauté. Hein. On ne s'attend pas à produire des éléments radioactifs de cette façon-là.
Ça, c'est que la première communication qu'ils envoient à l'Académie des sciences, Nathalie Pijard, cette première communication rencontre plutôt l'incrédulité. Le phosphore 30 ne fait pas partie des noyaux connus. À ce moment-là, on peut tâter le pouls, prendre le pouls déjà de l'importance de cette découverte.
Oui, l'importance de la découverte, elle apparaît immédiatement, même s'il y a de l'incrédulité, parce que il y a incrédulité à partir du moment où une découverte est annoncée. Il faut la refaire, il faut la réexpliquer, etc. Mais ça suscite un intérêt fou, parce que comme l'a dit Camilla, on est dans un bouillonnement d'études et de découvertes sur la matière, sur la radioactivité. Donc, c'est oui, ça a un succès immédiat, un succès notamment pour réitérer l'expérience. Mmh. Et d'ailleurs, les Joliot, n'arrête pas de réitérer l'expérience et vont découvrir d'autres radioéléments artificiels presque immédiatement.
Oui, c'est parce qu'à ce moment-là, la radioactivité restait quand même une propriété exclusivement attachée à une trentaine de corps présents dans la nature. Ça peut être l'occasion aussi de rappeler une différence entre radioactivité naturelle et radioactivité artificielle. Mmh. Artificielle, c'est que c'est pas créé de toutes pièces.
Oui, en fait, finalement, le phénomène de la radioactivité est exactement le même pour les éléments artificiels et les éléments naturels. Sauf que les éléments naturels, on les trouve principalement dans le sol, hein, le radium, l'uranium, le polonium, tout ça. Les éléments artificiels, en fait, c'est l'élément radioactif qui, lui, est synthétisé en laboratoire. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, alors de manière involontaire, quelque part, la première fois. Ce qui va se passer très vite après cette première expérience physique où ils vont voir cette radioactivité inattendue émise par ce qui est dans l'aluminium en tout cas, ressemble un petit peu à ce que doivent faire les Curie à la fin du 19e siècle, puisqu'en fait, ils vont être dans le processus de purifier ces éléments radioactifs qu'ils viennent de créer, ces éléments radioactifs artificiels, chimiquement. Hein, pour les isoler, pour pouvoir prouver qu'il s'agit bien de phosphore radioactif. C'est vraiment, ça fait la paire pour moi avec tout le travail. Alors ça prend beaucoup moins de temps, hein, 15 jours, mais ça fait la paire avec le travail des Curie sur le radium et le polonium.
Alors pourquoi cette découverte de ces radionucléides artificiels a été un tel bouleversement? Reste à l'écoute, on y arrive. Splitting. Pet Shop Boys, The Sound of the Atom Splitting, en direct sur France Culture, car on parle de la découverte de la radioactivité artificielle par le couple Joliot-Curie. On en parle avec nos deux invités du jour, Nathalie Pijard, historienne, directrice adjointe du musée Curie, et Camilla Mayani, physicienne responsable de la médiation au musée Curie. On vient de voir, voilà, que cette création artificielle de radio-éléments par le couple Joliot-Curie s'est donc déroulée en 1934, qu'elle est récompensée d'un prix Nobel en 1935. On n'a pas parlé des conditions dans lesquelles ça s'est fait, Camilla Mayani. On parle d'un système de détection complexe, mais quand même, c'est fait tout ça avec un matériel plutôt rudimentaire.
Oui, en fait, c'est du matériel classique du laboratoire Curie. Alors, ce qu'ils vont utiliser, les Joliot-Curie, donc c'est d'abord une chambre de Wilson, qui a un instrument, une chambre à brouillard aussi, ça s'appelle, qui permet de voir, visualiser les traces des particules électriquement chargées, donc de ces positons, et de les identifier comme positons. Ça, c'est ce qui les met tout de suite sur la piste. Et après, pour la vraie découverte, au départ, finalement, ils vont utiliser une chambre avec des robinets pour pouvoir faire entrer et sortir du gaz, pour pouvoir stopper plus ou moins les rayons alpha, parce qu'on disait qu'ils voulaient moduler leur énergie. Et puis, ils utilisent cette chambre de Wilson pour détecter les positons au-delà de l'aluminium et un compteur Geiger-Müller, mais qui est le détecteur, une des façons de détecter la radioactivité de l'époque. Mais après, finalement, une fois qu'ils ont une compréhension du phénomène, il s'amplifie beaucoup, hein, parce que finalement, cette expérience-là, on peut la faire avec une source de polonium. Alors, faut l'avoir, la source, mais bon. Une feuille d'aluminium. Voilà, on va irradier la feuille d'aluminium. Après, on enlève la source, on l'éloigne, et puis on amène la feuille d'aluminium à côté d'un compteur Geiger-Müller. Et là, on vérifie que la feuille d'aluminium émet des rayonnements. Donc, elle est radioactive. Et ça y est, la découverte, elle est là. Mais au départ, ils vont beaucoup se compliquer la vie parce que c'est pas ce qu'ils visent, cette découverte.
Et en effet, les Joliot-Curie, en tout cas, sont tout à fait conscients du potentiel de cette découverte lors de la conférence de la remise des prix Nobel le 12 décembre 1935. Frédéric Joliot évoque quelle perspective sur l'avenir ouvert par cette expérience. Il évoque d'immenses espoirs, mais aussi de terribles prémonitions. Si tournés vers le passé, nous jetons un regard sur les progrès accomplis par la science à une allure toujours croissante, nous sommes en droit de penser que les chercheurs construisant ou brisant les éléments à volonté sauront réaliser des transmutations à caractère explosif, véritable réaction chimique à chaîne. Si de telles transmutations arrivent à se propager dans la matière, on peut concevoir l'énorme libération d'énergie utilisable qui aura lieu. Mais hélas, si la contagieuse a lieu pour tous les éléments de notre planète, nous devons prévoir avec appréhension les conséquences du déclenchement d'un pareil cataclysme. Les astronomes observent parfois qu'une étoile d'éclat médiocre augmente brusquement de grandeur. Une étoile invisible à l'œil nu peut devenir très brillante et visible sans instrument. C'est l'apparition d'une novae. Ce brusque embrasement de l'étoile est peut-être provoqué par ces transmutations à caractère explosif. Processus que les chercheurs s'efforceront sans doute de réaliser en prenant, nous l'espérons, les précautions nécessaires. Nathalie Pijard, il est prémonitoire ce discours.
Il est prémonitoire, mais il est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que il parle en tant que scientifique, mais aussi en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va utiliser cette énergie fabuleuse qui va pouvoir être créée justement par une réaction en chaîne grâce à la radioactivité artificielle? Et il le dit, il faut faire attention, ça peut faire une novae aussi, ça peut donc faire une explosion. Mais ça peut aussi être très joli.
Camilla Mayani, en effet, tout de suite, le couple a conscience du potentiel de l'usage militaire de la fission.
Alors, de la fission, oui. En 34-35, ils y sont pas encore. La communauté scientifique n'est pas prête. Il va y avoir encore quelques découvertes nécessaires, dont celle de la fission, évidemment, dont on a déjà parlé.
De Lismeitner, en effet, en 1938.
Et voilà. Surtout, Frédéric Joliot, il va être au taquet sur la fission et il va très vite s'intéresser de la question de l'énergie nucléaire pas trop de la bombe. En tout cas, lui, c'est pas, c'est même avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il est vraiment focus sur les usages civils. Et il va même dire à Raoul Dautry que il croit que la bombe est encore loin. Ça, c'est avant la guerre. Hein. Il y croit pas trop. Bon, est-ce qu'il est sincère ou pas, je ne sais pas. En tout cas, lui, il s'y intéresse très vite. Et d'ailleurs, c'est lui qui va faire le calcul qui démontre qu'une réaction en chaîne est possible lors de la fission de l'uranium. Donc qu'on peut en fait dans des conditions très particulières avoir une réaction puis deux puis trois et puis une réaction voilà maîtrisée hein, dans ce cas dans un réacteur nucléaire idéalement mais qui s'enchaîne spontanément.
Voilà, en effet, 39-40, Frédéric Jouliot travaille avec un groupe, hein, ils sont quatre, sur la fission de l'uranium et de la réaction en chaîne. Il dépose des brevets. Nathalie Pijard, pas de projet Manhattan non plus.
Non, en fait, Frédéric Joliot, même s'il est conscient des dangers hein, de l'usage militaire de cette énergie, il en est conscient puisqu'il a déposé les brevets, des plis cachetés, etc. Pour lui, la guerre, durant la guerre, il va par exemple travailler sur le biologique. Voilà, l'application sur le biologique de la radioactivité. Et ils vont travailler aussi sur la création plus tard de ce qui préfigurera les centrales nucléaires, c'est-à-dire un usage civil de l'énergie nucléaire. C'est pas pour rien qu'effectivement il sera un des premiers à signer, le premier à signer l'appel de Stockholm contre l'utilisation militaire et son contrôle d'ailleurs de cette utilisation à Stockholm en 50.
C'est ça, le 19 mars 1950, l'appel de Stockholm, célèbre pétition contre l'arme nucléaire. On peut aussi se demander si, parce que là, en effet, on parle de la production d'énergie comme l'objectif des Joliot-Curie. On va parler tout de suite, évidemment, des applications militaires, mais il faut aussi rappeler que, en tout cas, Frédéric est encarté aussi au Parti communiste français.
Oui, il est encarté, mais faut penser aussi que, quelque part, ces scientifiques vont être dépassés par ce qui va se passer, notamment par le projet de Manhattan, quand on voit les réactions de Lise Meitner aussi, même d'Einstein, on a l'impression qu'ils atterrissent complètement sur Terre. Donc, ce n'est pas qu'une histoire, je dirais, d'encartement. Là, le fait qu'il soit au Parti communiste français va faire qu'il va être totalement évincé par le gouvernement, notamment aussi par un petit chantage au plan Marshall. Hein. Les États-Unis ne veulent absolument pas de voir Frédéric Joliot à la tête du nucléaire français. Ça, c'est clair et net. Et c'est eux qui vont pousser à ce qu'il soit évincé. Mais là, pour la production, on va dire, de la bombe, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment... on recherche et on veut maîtriser. Voilà. Et effectivement, on va pas faire appel à un scientifique communiste pour le projet Manhattan, non.
Pour le programme nucléaire français, en tout cas avec le général de Gaulle, on voit bien que c'est grâce à Joliot quand même que la France a ses réacteurs nucléaires si tôt. C'est lui qui est en première ligne pour créer justement ce qu'on appelle à l'époque une pile atomique,
oui, la Zoé. Oui. À la demande de Gaulle d'ailleurs, hein. C'est de Gaulle qui au début va lui demander de travailler sur l'énergie atomique avec Dautry. Ils vont créer donc le CEA. Frédéric Joliot sera haut commissaire à l'énergie atomique. Et effectivement, son objectif à lui, à partir du moment où le CEA existe, pour Frédéric Joliot, c'est de refuser de travailler dans un objectif militaire. Et donc son objectif, c'est ce qui va arriver en 48 avec la pile Zoé, c'est-à-dire la production d'énergie qui peut être utilisée civilement.
Oui, il faut savoir aussi que Joliot, on le disait tout à l'heure, en fait, il s'y intéressait déjà avant l'occupation, avant la guerre. Et en fait, la France, le laboratoire de Joliot, en tout cas, va perdre d'emblée cette course au premier réacteur. Hein, c'est des réacteurs de recherche, donc au premier réacteur nucléaire. à cause de l'occupation, mais que Joliot est vraiment au starting block pour créer un premier réacteur français. Alors, son premier compétiteur est Enrico Fermi à Chicago, qui va de fait construire la première pile qui va diverger en 42. Eux, ils sont stoppés par l'occupation, mais au moment de l'occupation, il est déjà arrivé à avoir plusieurs tonnes d'uranium par les fournisseurs du laboratoire Curie, les mines du Haut-Katanga, qui sont les copines de Marie Curie, enfin qui étaient les copines de Marie Curie depuis longtemps, et le Lourdes pour mener à bien son projet. Donc il n'est plus juste dans la théorie et dans le calcul, il est vraiment dans le concret, il est en train de construire le premier réacteur et l'occupation l'arrête. Après, il a quand même une vision politique, il sait qu'il ne faut pas que tout ce matériau-là tombe dans les mains des nazis. Donc il va disperser son équipe, les matériaux avant la guerre. Et l'occupation et la guerre vont faire prendre du retard à la France. Mais c'est vraiment le choix, le seul choix possible en France de mettre au départ Joliot à la tête du CEA, en fait.
Ah oui, c'était la pure logique. Effectivement, à partir du moment où ils ont tous les matériaux, notamment l'eau lourde, hein, qu'ils ont en exclusivité, Frédéric Joliot prend ses archives, même, emmène ses archives du Collège de France pour pas qu'elles tombent dans les mains nazies. Et on va avoir l'eau lourde qui va arriver un petit peu partout, à Rion, après dans le Sud, après en Angleterre, Canada, voilà. Tout ça va être dispatché pour justement qu'il n'y ait pas un usage militaire.
Là, on parle en effet de production d'énergie, le programme nucléaire français. Il faut aussi donc revenir sur cette idée très importante chez les Joliot-Curie, l'étude de la radioactivité, et aussi pour servir la médecine. On a des objectifs thérapeutiques très assumés. Joliot, d'ailleurs, on parle dans son discours pour le Nobel, Camilla Maiani, l'avènement des radiotracteurs. Radiotracteurs, n'importe quoi. Radiotraceurs, excusez-moi.
Oui, en fait, il en parle vraiment tout de suite. Et il faut savoir qu'en parallèle du projet nucléaire, qui est quand même lié à la question des éléments radioactifs artificiels, puisque les premiers, la pile Zoé, tout comme la pile de Chicago, leur premier but n'est pas la production d'énergie, elles ne sont pas assez performantes, mais c'est la production d'éléments radioactifs. Hein, dont le plutonium pour la bombe, typiquement pour Chicago. Et en parallèle, les Joliot-Curie vont quand même s'investir vraiment dans la course aux accélérateurs de particules, dont un des usages est aussi cette production d'éléments radioactifs. Et quand on parle de ces moyens de production-là, par rapport à ce qu'on disait qu'ils faisaient dans leur labo avec une source de polonium, une feuille d'aluminium, ben là, en fait, on peut diversifier les sources, on peut en produire de différents types, différentes longueurs de vie. Et c'est là que ça devient intéressant pour la biologie et la médecine, parce que du coup, on peut en avoir pour tous les usages, pour les analyses médicales, tout comme pour la radiothérapie pour le cancer.
Radiothérapie qui, jusque dans les années 30, on parlait encore de curie-thérapie, Nathalie Pijard.
On en parle encore.
Ah, c'est vrai ?
On en parle encore, notamment dans les cancers de la prostate, la curie-thérapie de contact. Mais c'est vrai que Joliot, pendant l'occupation, n'ayant pas du tout envie de travailler, de faire un travail qui pourrait être utilisé par l'Allemagne nazie, va publier beaucoup d'articles avec Antoine Lacassagne du Pavillon Pasteur, justement sur l'impact sur le biologique de ces radioéléments aussi. Et le but du jeu va être de trouver, mais pas lui après, hein, là ça va se diversifier, de trouver des radioéléments qui permettent de tuer la tumeur sans, contrairement au radium, tuer les tissus sains. C'est-à-dire que le radium, avec une demi-vie de 1600 ans, au bout de 1600 ans, il a perdu la moitié de sa capacité radioactive. Bon, on est mort depuis longtemps, en fait. Donc là, il faut trouver des moyens de pouvoir irradier des tumeurs de manière temporelle très courte.
Voilà, à l'époque, on ne parle pas encore de médecine nucléaire. C'est un anachronisme, mais c'est...
Ça va venir très vite.
Mais ça va venir très vite. Alors, pour Marie et Irène Curie, quelles sont les conséquences de ce prix Nobel dans leur vie respective, et notamment par rapport à leur mari? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
Thank you. En direct sur France Culture, nous sommes avec Nathalie Pijard et Camila Mayani. Nous parlons des 90 ans du prix Nobel de chimie de Frédéric et Irène Joliot-Curie. On vient parler des différentes applications que la découverte de la radioactivité artificielle, toutes les implications que cela représente. Maintenant, prenons un peu de distance, de recul par rapport aux personnages historiques, à ces personnages dans l'histoire des sciences. On peut dire déjà que Irène Joliot-Curie était ouvertement féministe. On voit un investissement dans la question politique du droit des femmes qui est très documenté, Nathalie Pijard.
Oui, il est évident que Irène, dès qu'on lui demande de prendre la parole, même quand elle reçoit le prix Nobel, à la télé, quand on lui dit « qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu le prix Nobel ?», elle va pas répondre « c'est formidable, c'est génial ». Elle va dire « j'espère que ça va servir le travail féminin ». On est en 35, il y a eu les 91 lois décrets Laval, mais il y en a eu beaucoup plus si on considère toutes les lois qui limitent le travail de l'étranger et de la femme en France. Elle le sait. Le travail féminin est en danger, elle va le défendre. Contrairement à Marie Curie, qui, elle, ne va jamais, ou deux fois seulement, contrainte forcée d'ailleurs, prendre position sur des sujets sociaux. Irène, elle défendra systématiquement le droit des femmes, le droit économique des femmes, le droit de vote des femmes, mais aussi le droit de gérer leur propre corps, ce qui est très moderne à l'époque. C'est ce qu'on appelle effectivement la première vague de scientifiques féministes. Elle n'est pas seule, hein. Il y a Anna Carton, il y a Coton, il y a et puis d'autres femmes médecins. Mais c'est vraiment une militante féministe, oui.
Est-ce qu'on peut dire que l'époque d'Irène Curie est plus hostile aux femmes que celle qu'a connue sa mère, Marie Curie?
Oui, largement. En fait, quand Marie Curie et Maria Skłodowska est arrivée en France, on avait besoin de gens qualifiés sur le marché du travail. Or, la France est très, très, très largement illettrée. Pas forcément analphabète, mais à 96%, elle est illettrée. Et donc, dans ces cas-là, on a besoin de gens qualifiés. On fait venir les étrangers et les femmes qui sont les bienvenus. Marie Curie n'a aucun problème en tant que femme étrangère, pour venir étudier en France, mais aussi pour trouver un laboratoire. À partir du moment des années 30, on arrive à près de un tiers des étudiantes parmi les étudiants de la faculté des sciences. Ce ne sont plus franchement des femmes ou des étrangers d'ailleurs, ce sont des concurrents sur le marché du travail. Et quand vient la crise économique, c'est des concurrents encore plus importants. Donc, c'est pour cela que ça va être beaucoup plus difficile pour une femme de faire carrière, profession dans les sciences dans les années 30 que au début du 20e siècle.
Alors, par rapport justement au couple Irène et Frédéric, on a quand même en 1937, ce dernier obtient une chaire au prestigieux Collège de France. Quand Irène ne décroche qu'un poste de professeur, son chaire à la Faculté des sciences, il entre à l'Académie des sciences dès 1943, elle s'y présentera quatre fois, sans succès. Et aujourd'hui, on peut dire que, Irène Curie a eu droit à des funérailles nationales, bien sûr, mais c'est quand même Frédéric qui reste dans l'histoire, j'ai l'impression.
Alors ça commence à changer. C'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en fait, Marie Curie a pratiquement totalement occulté Pierre Curie, l'image de Marie Curie. Alors qu'en fait, ils ont fait la découverte, vraiment, c'est une découverte commune, exactement comme la radioactivité artificielle de Frédéric et Irène Joliot-Curie. À la mort de Frédéric Joliot, donc Irène est morte deux ans avant, c'est vraiment le Frédéric Joliot qui va rester, qui s'inscrit dans les mémoires. Et on va voir effectivement son nom plus paraître que celui d'Irène qui va passer un petit peu aux oubliettes. Ceci dit, d'après les 10 dernières années, là, Irène revient beaucoup en force. Et on arrive même à une situation assez rancombolesque où parfois on veut donner à un établissement son nom, à elle, mais pas à lui. Alors que pareil, c'est une découverte commune. Donc on commence à revoir la situation qu'ont connu Marie et Pierre Curie arriver, mais on en est encore loin on en est encore loin, heureusement.
Camila Mayani, je voyais.
Oui, alors il y avait un détail sur les funérailles que je trouve intéressant pour voir aussi le regard des contemporains sur le couple. Et puis il y a tout un discours qui est quand même toujours porté par la communauté scientifique aujourd'hui, comme quoi voilà, Frédéric Joliot était vraiment un physicien, il avait vraiment une vision. Elle était plutôt chimiste. Alors ça, c'est quelque chose que eux, ils contredisent complètement, notamment dans le discours Nobel. Mais dans une espèce de hiérarchie des voilà
des savoirs
qui existent. Et aux funérailles, finalement, Irène ne va pas vraiment avoir des funérailles nationales, alors que elle n'a pas la carte du Parti communiste. Alors que Frédéric Joliot, lui, qui a la carte du Parti communiste, il va y avoir droit.
Irène, elle n'a pas le droit aux funérailles nationales.
Non, elle va avoir une version réduite, en fait, beaucoup, beaucoup plus intime. Et alors, ce qui bloquait, selon Jacques Mons, son biographe, aurait été qu'elle était vraiment trop à gauche. Mais pour Frédéric Joliot, on va faire une exception parce qu'il a fait tellement d'accomplissements de son vivant que voilà. Donc, sur la reconnaissance, c'est vrai que c'est quand même particulier.
Le télégramme annonçant le prix Nobel, il est adressé à Frédéric Joliot. Vous et votre femme, on n'envoie pas de télégramme à Irène. C'est ça qui est amusant.
Eh bien, en tout cas, merci. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Et un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans un tout petit mot pour annoncer que le 13 décembre, Camila Maiani, vous ferez une conférence sur cette découverte, justement, Musée Curie, en compagnie de...
Nina Géhanneau, qui est médecin à l'Institut Curie, experte de médecine et biologie nucléaire. Donc, elle va pouvoir... dire plus de choses sur les applications aujourd'hui.
Très bien, et puis vous publiez également sur les pas de Frédéric et Irène Joliot-Curie dans la collection Les Carnets du Musée Curie. Merci beaucoup. Tout de suite, on quitte la radioactivité, on se tourne vers les chauves-souris. C'est la chronique avec science.
Pourquoi les chauves-souris sont-elles attirées par les éoliennes? Quand on parle de biodiversité et d'éoliennes, on pense d'abord aux oiseaux. C'est ce groupe d'espèces qui a été étudié en premier. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, estime que chaque éolienne tue en moyenne 7 oiseaux par an. À l'échelle française, cela représenterait 50 à 60 000 individus. Et chez notre voisin allemand, bien plus équipé en éoliennes, environ 200 000 oiseaux seraient tués chaque année. C'est évidemment une approximation, mais les chauves-souris semble tout autant affecté par les éoliennes. Fabien Verniest est chercheur au CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum national des sciences naturelles.
L'installation des éoliennes s'accompagne de diverses menaces pour les chauves-souris. Les deux principales sont donc la première, le risque de collision. Donc, grosso modo, ce sont des individus qui volent à hauteur de rotor et qui se font percuter par les pales en rotation de l'éolienne. Donc ça concerne plus particulièrement donc les espèces qu'on qualifie de haut vol, comme les noctulpes, qui forcément sont plus exposées à ce risque. Et pour donner quelques chiffres, en Allemagne, ça représente plus de 200 000 chauves-souris mortes par an, ce risque de collision, ce qui est colossal. Le second risque, qui est un petit peu moins connu à la fois du grand public et des scientifiques, c'est l'altération de l'utilisation des habitats qui résulte de la présence d'éoliennes. En effet, selon le contexte, selon l'espèce, la météo, le fonctionnement des éoliennes ou encore la période de l'année, les chauves-souris peuvent avoir à la fois des comportements plutôt d'évitement. Donc elles vont avoir tendance à moins s'approcher des éoliennes, ce qui entraîne une certaine forme de perte d'habitat. Et à contrario, elles peuvent également être attirées par la présence d'éoliennes. Et cette attraction, on se rend bien compte que potentiellement, elle peut augmenter le risque de collision que je viens de détailler.
On commence tout juste à tenter de comprendre ce qui favorise l'attraction ou l'évitement des éoliennes par les chauves-souris. Et l'un des facteurs pointés du doigt, c'est la lumière. Elles sont très sensibles à la pollution lumineuse. Or, sur les nacelles, il y a toujours un balisage nocturne, obligatoire pour éviter les collisions avec les avions. La question centrale de cette étude parue dans le Journal of Applied Ecology, c'est donc de déterminer si ces lumières ont une influence sur le comportement des chauves-souris. Et pour le comprendre, il faut les écouter. Et ça donne ça. En fait, vous n'entendez rien parce que les chauves-souris émettent des ultrasons. Ce que vous aperceviez au loin, c'est le coassement d'amphibiens. Si on transforme ce son, si on le ralentit, on divise la fréquence par 10, ça devient audible.
On dirait presque un oiseau. C'est une chauve-souris, donc, dont le son a été modifié, probablement une pipistrelle commune. Les scientifiques ont équipé 3 sites distincts, dans le nord-est de l'Allemagne, de ces microphones pour suivre l'activité acoustique des chauves-souris. Et si elles font du bruit, c'est qu'elles sont là. Les 3 sites sont différents. Dans le premier, les éoliennes clignotent toute la nuit. C'est le fonctionnement standard. Le second ne s'allume que lorsqu'il détecte le passage d'un aéronef à proximité. Le terme technique, c'est balisage circonstancié. En moyenne, l'illumination tombe à seulement 12% de la nuit. Et pour finir, un site contrôle sans éolienne ni lumière. 28 000 cris de chauves-souris ont été enregistrés et résultat, l'illumination continue les attire.
Tout d'abord, nous avons constaté une activité plus élevée à proximité des éoliennes avec un balisage activé en continu sur l'ensemble de la nuit par rapport aux sites témoins, donc sans éoliennes à proximité. Ce qui veut dire que, globalement, dans le cadre de notre étude, nous avons montré plutôt de l'attraction des chauves-souris par les éoliennes. Mais de façon plus intéressante, en comparant l'activité à proximité d'éoliennes avec le balisage circonstancié, donc ce balisage qui ne s'active qu'à l'approche d'un aéronef, nous avons constaté que cette activité, elle était inférieure à l'activité à proximité d'éoliennes avec le balisage activé sur l'ensemble de la nuit, mais similaire à celle des sites témoins. Ça veut dire que le balisage aéronautique des éoliennes, a priori, il contribue à l'attraction des chauves-souris et que l'utilisation de ce balisage circonstancié, donc qui ne s'active qu'une petite partie de la nuit, elle permet de limiter ces comportements d'attraction et potentiellement donc de limiter les risques de collision.
Cela reste une région d'Allemagne, donc l'intensité du phénomène peut varier ailleurs. Mais une chose est claire, les lumières rouges clignotant en continu attirent les chauves-souris et limiter l'illumination au seul passage d'objets volants suffit à ne plus les entendre. Depuis cette étude, qui est publiée aujourd'hui mais qui a été menée en 2021, l'Allemagne a étendu ce balisage circonstancié à l'ensemble du pays. En France, ce dispositif n'est pas autorisé. Il nécessiterait d'équiper tous les appareils volants d'un transpondeur et le ministre des Armées n'y est pas favorable. Un autre système, basé cette fois sur l'infrarouge, est en cours d'étude. Côté science maintenant, la prochaine étape est de vérifier si cette attraction se traduit par une mortalité accrue et surtout de comprendre pourquoi les chauves-souris sont attirées par la lumière ou par leur proie elle-même attirée par la lumière. Le phénomène est certainement plus complexe qu'il n'y paraît et il diffère probablement selon les espèces.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et tout de suite, comme chaque mercredi, on retrouve le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Vous pensez connaître la différence entre une femme et un homme ? Détrompez-vous. La science hésite et la société, elle, vous impose un rôle. Alors prenez vos certitudes, mettez-les de côté. Ce que vous croyez savoir sur le sexe et le genre est bien plus complexe et bien plus fascinant que ce qu'on vous a toujours raconté. Le sexe fait référence à ce que l'on nomme le sexe biologique et le genre à la construction sociale des rôles féminins et masculins dans une société. Le sexe biologique est défini relativement à la production des gamètes, pour la reproduction de l'espèce. Pour faire un bébé, il faut biologiquement la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Par convention, les scientifiques ont défini le gamète mâle par celui qui est petit et bouge, le spermatozoïde, alors que le gamète femelle est immobile et contient les réserves pour le futur embryon, l'ovule. En première définition, l'individu femelle est donc celui qui produit des gamètes femelles, le mâle celui qui produit des gamètes mâles. Et c'est valable pour toutes les espèces avec une reproduction sexuée, humain compris. En 1905, on a découvert que les mammifères mâles portent les chromosomes X et Y, alors que les femelles portent 2 chromosomes X. Ces chromosomes définissent cette fois le sexe génétique. Mais il existe de nombreux cas où les deux définitions ne collent pas. Par exemple, on peut être XY, donc génétiquement mâle, et biologiquement femelle. Il suffit de quelques mutations, réaménagements chromosomiques. C'est rare, mais on estime quand même que 1% de la population mondiale est intersexuée. Et venons-en au genre. Ma collègue anthropologue Priscille Touraille le précise. Le genre est une convention qui projette sur des différences biologiques, ici mâle-femelle, des différences de comportement qui sont culturelles, apprises, avec une obligation sociale de différencier féminin et masculin. En pratique, le système de genre définit ce qu'une société attend d'une femme ou d'un homme. Pour les femmes, des comportements dits féminins, effacés, gentils. Les hommes, eux, ne devraient pas montrer leurs émotions, ils ne doivent pas pleurer. Dans nos sociétés dites patriarcales, les catégories de genre créent des inégalités qui avantagent la classe des hommes. Ces représentations dépendent des sociétés, donc des humains qui les composent. Elles changent selon les époques et sont plus ou moins strictes à travers le monde. Pour rappel, en France, il y a 50 ans, une femme en pantalon transgressait les codes de genre. Une ordonnance de 1800 interdisait aux femmes de s'habiller en homme. Et elle n'a été abrogée qu'en 2013. Alors qu'en Polynésie, il est tout à fait admis que des personnes choisissent un genre, ici féminin, qui diffèrent de leur sexe biologique, masculin. Ce sont les rérés qui ont toute leur place dans la société. Ce que l'on nomme la transidentité est accepté. Dans la société contemporaine émergent de nouveaux rapports à ces codes de genre. Certaines personnes choisissent de naviguer de l'un à l'autre. On parle alors de fluidité de genre. Alors que les non-binaires revendiquent d'appartenir aux deux genres ou, au contraire, à aucun. Serait-ce le début d'une société moins genrée ?
Merci Evelyne Ayer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Mineta Djawara. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.